Paul Féval, Les habits noirs, tome 1. Première partie, le brassard ciselé. Chapitre 1, essai sur les Schwartz. Il y avait une fois au petit pays de Guebwiller, en Alsace, une famille Schwartz qui était bien honnête et qui fournissait des Alsaciens à l'univers entier. Les Alsaciens sont généralement bien vus dans le monde, et la famille Schwartz, soit sur commande, soit d'office, plaçait ses petits avec faveur. Faveur est un mot de terroir. Il se prononce vafeur et acquiert une très suave harmonie en passant par une bouche sachant bien parler le français. La famille Schwartz florissait donc, croissant et multipliant avec une évangélique abondance, expédiant ses couvées à Paris, en province, à l'étranger. Et, nonobstant ses exportations continuelles, gardant toujours en magasin un stock imposant de petits Schwartz et de petites Schwartzesses, prêts et prêtes pour l'emballage. Pour le commerce, les sociétés chorales, la bière et l'accent, nul pays ne peut rivaliser avec l'Alsace. Un jeune Schwartz, conditionné avec soin et mûr pour la conquête, résume en lui seul toutes les vertus du savoyard, du provençal et de l'auvergnat. Il possède la proverbiale économie du premier, l'aplomb vainqueur du second, et la chevaleresque délicatesse du troisième. Aussi voyez, je vous mets au défi de trouver en Europe une cité de 2000 âmes qui ne possède au moins un Schwartz. En 1825, il y en avait deux à Caen, un commissaire de police, aussi propre qu'habile, et un pâtissier suisse qui faisait honnêtement sa fortune. Cette date de 1825 à Caen et le mot commissaire de police vont mettre tout à coup peut-être le lecteur sur la voie, et chacun devinera qu'il s'agit ici du fameux procès Ménotte. Parmi les causes célèbres, l'affaire Ménotte est une des plus curieuses et des moins connues. Le 14 juin de cette même année 1825, un jeune Schwartz, un vrai Schwartz de Guebwiller, arriva à Caen sur l'impériale de la diligence de Paris. Sa mise était propre et dénotait ses soins assidus qui ne réussissent pas toujours à dissimuler la gêne. Il n'était pas grand, mais sa taille bien prise annonçait une constitution saine et résistante. Il avait le poil brun, la peau fortement colorée et les traits pointus. Ce type, assez rare en Alsace, est d'ordinaire modifié de bonne heure par une obésité précoce. J.B. Schwartz était encore très maigre. Il ne paraissait pas plus de 20 ans. L'aspect général de sa physionomie était une douceur grave, inquiétée par des yeux trop vifs et dont le regard semblait avide. Son bagage était si mince qu'il put le prendre sous son bras en descendant de voiture. Les gens qui postulent pour les divers hôtels sont physionomistes en Normandie. Personne ne lui demanda sa pratique. Il se procura l'adresse de M. Schwartz, le commissaire de police, et celle de M. Schwartz, le suisse pâtissier. Entre eux, Schwartz parvenu et Schwartz à parvenir, c'est un peu une franc-maçonnerie. Notre jeune voyageur fut très bien reçu chez le marchand. On lui demanda les nouvelles du pays, on se montra sensiblement touché de ce fait que son père et sa mère étaient morts tous deux, laissant deux pleines douzaines de Schwartz orphelins en bas âge. Il était l'aîné. En 20 années, sa digne mère avait eu 16 couches, dont 6 doubles. Les dames Schwartz sont toutes comme cela, Dieu soit loué. Il n'eut même pas besoin de dire qu'il venait à Caen pour gagner sa vie. C'est chose sous-entendue qu'un Schwartz ne voyage pas pour son plaisir. Le commissaire de police et le pâtissier s'écrièrent tous deux à sa vue. « Quel dommage! Si vous étiez venu la semaine dernière !» Mais à présent, Schwartz s'est installé. Schwartz était installé chez le Suisse. Schwartz avait fait son nid au bureau de police, des Schwartz de rechange. À l'heure du dîner, notre jeune voyageur se promenait mélancoliquement sur les bords de l'Orne. L'hospitalité de ses deux compatriotes n'avait pas été jusqu'à lui offrir place à table. Il portait toujours son bagage sous son bras, et ses réflexions n'étaient pas couleur de rose. Sans doute, avant de désespérer tout à fait, il lui restait à voir une grande quantité de Schwartz dans les divers départements de la France. Mais ses finances étaient à bout, et son estomac patientait depuis le matin. Hé, Schwartz ! Cria derrière lui une voix joyeuse. Il se retourna vivement et déjà content. Toute rencontre est bonne aux affamés, car il y a au bout un dîner possible. Cependant, à la vue de celui qui se présentait, la physionomie de J.B. Schwartz se rembrunit et il baissa les yeux. Un jeune homme de son âge très passablement couvert et dont l'élégance sui generis annonçait un commis voyageur venait droit à lui le long du quai, le sourire aux lèvres et la main tendue. « Comment va, bonhomme ?» demanda le nouveau venu avec rondeur. « Nous voilà donc dans la patrie du bœuf gras, et ?» Il ajouta, après avoir secoué la main de Schwartz, qui resta inerte et froide, « Comme on se rencontre tout de même ?»« C'est vrai, monsieur Lecoq, » répliqua le jeune Alsacien qui souleva son chapeau de cérémonie. « On se rencontre comme cela. » Monsieur Lecoq passa son bras sous le sien, et Schwartz sembla éprouver une sorte de malaise. Nous devons dire que rien dans l'apparence du nouveau venu ne motivait une pareille répulsion. C'était un fort beau garçon, au teint frais, à la tournure crâne, au regard ouvert et hardi. Ses manières pouvaient manquer de distinction, comme son costume abusait de couleurs voyantes, mais ces détails devaient apporter peu à notre Alsacien. On est prudent à Gebwiller. Les défiances de J.B. Schwartz doivent donc nous mettre en garde jusqu'à un certain point contre ce flambant monsieur Lecoq. A-t-on dîné ? Demanda celui-ci au bout de quelques pas. Schwartz rougit et ses yeux mobiles se prirent à rouler. Mais il répondit « Oui, oui, monsieur Lecoq. » Le commis voyageur s'arrêta, le regarda en face et partit d'un éclat de rire un peu forcé. « Oui, oui, monsieur Lecoq !» répéta-t-il, exagérant l'accent de son compagnon. « As-tu fini ? Nous mentons comme un polisson, Baptiste. Ce qu'ils vous ont dit, mon ami, s'interrompit-il avec une dignité superbe, que j'ai été remercié chez Monnier frère en ont menti par la gorge. » « On ne remercie pas Lecoq, fils adoptif d'un colonel, entendez-vous ? C'est Lecoq qui remercie quand les patrons ont le don de lui déplaire. Monnier est une simple crasse. J'avais 4 000 chez lui. Berthier et compagnie m'ont offert 5 000 et mes commissions. Emballez !»« 5 000 et les commissions ?» répéta l'Alsacien qui passait sa langue sur ses lèvres. « Du nanan, eh, bonhomme ! Je ne m'arrêterai pas là. Et pourquoi n'êtes-vous plus chez les Monnier, vous ? On a réduit le nombre des employés. Je vous dis des crasses. » Combien avais-tu ? 300 et le déjeuner. Au pas et à l'eau, une baraque. Jean-Baptiste, si j'osais m'exprimer avec franchise, je te dirais que tu es un parfait dindon, une poule. Schwartz essaya de sourire et répondit « Je n'ai pas de bonheur comme vous, monsieur Lecoq. » Ils avaient quitté le bord de l'eau et monté la rue Saint-Jean. Le commis voyageur haussa les épaules. « Dans les commerces, Jean-Baptiste, professa-t-il, il n'y a ni bonheur ni malheur. C'est la façon de tenir les cartes, voilà. Et la manière de risquer son tout. Moi qui parle, dès que je trouverai un cheveu dans Berthier et compagnie, je m'envolerai vers d'autres rivages avec 8 000 de fixe ou davantage. Vous devez faire de rudes économies, monsieur Lecoq, interrompit Schwartz avec une naïve admiration. Monsieur Lecoq quitta son bras pour lui donner un maître coup de poing dans le dos. Le jeu, le vin, les belles, dit-il. Je suis un jeune fils de famille, et les poules mouillées ne font jamais fortune. Hé, bonhomme. En même temps, il fit pirouetter Schwartz et le poussa sous la porte cochère d'une grande vieille maison qui avait pour enseigne cet illustre tableau représentant un volatile haut jambé marchant sur la crinière d'un lion avec la légende « Au coq hardi ». J.B. Schwartz se laissa faire parce qu'une violente odeur de cuisine le prit par les narines comme la main du dompteur saisit le taureau par les cornes. « La fille !» cria M. Lecoq de ce ton impérieux qui pose les commis voyageurs dans les hôtels. « Maman brûlée, père brûlé, quelqu'un, que diable ! Tout le monde est-il mort ?» Maman Brûlée montra au seuil de la cuisine un vénérable visage de sorcière. Monsieur Lecoq lui envoya un baiser et dit « Puisque je retrouve un ami fidèle et que la table d'hôte est en train depuis une demi-heure, servez 2 festins à 4 francs par tête dans ma chambre. Et distinguez-vous, hé, mon cœur ?» Il fut récompensé par le sourire cendant de l'hôtesse. « C'est ici que je respire quand je viens à Caen, » poursuivit-il en montant les marches déjetées de l'escalier. « On m'y donnerait les ardoises du toit à crédit, mais je n'en ai que faire, hé, bonhomme !» Prenez la peine d'entrer. » J.B. Schwartz entra sans résistance. L'odeur des casseroles avait agi sur la partie sensuelle de son individu. Je ne sais quel vague écho des récentes paroles de Lecoq chantait autour de ses oreilles. Le jeu, le vin, les belles. Le jeu néant. Mais il ne détestait pas le vin, et la pensée d'aimer mettait son âme en moiteur. Ces gens d'Alsace ont beau être tardifs, viennent l'août, ils bourgeonnent. C'était une chambre d'auberge, laide et malpropre. À peine entré, Monsieur Lecoq se précipita vers l'escalier et cria d'une voix retentissante « La fille, papa brûlé, maman brûlé !» Et quand on eut répondu « Mon carrosse pour 8 heures, heure militaire, il faut que je sois à Alençon demain matin. » En revenant vers son convive, il ajouta négligemment « La maison Berthier me paie un cabriolet et un cheval, et dans cette maison je circule la nuit pour ne pas me gâter le teint. Si j'osais, commença J.B. Schwartz, me demander une place dans ma charrette ? Oui. Fuis !» Eh bien, n'osez pas, Jean-Baptiste, et nous allons causer tout à l'heure, bonhomme. J'ai d'autres projets sur vous pour le moment. Une expression de défiance envahit de nouveau les traits de notre Schwartz, qui murmura. Vous savez, monsieur Lecoq, je ne suis qu'un pauvre garçon. Bien, bien, nous allons causer, vous dis-je. On prend l'engagement formel de ne pas exiger de vous, seigneur, l'invention de la poudre à canon. En parlant, il faisait sa toilette, changeant son habit de ville contre un costume de voyage. Quand la servante vint avec les plats, il ouvrit sa malle à grand bruit. Partant pour la Syrie, s'écria-t-il, je veux payer ma note, qu'on me l'établisse au plus juste prix, jeunesse, et sans oublier que je jouis de la remise du commerce et de l'avoine de mon coursier. J.B. Schwartz n'était pas peut-être le roi des observateurs. Cependant, il voyait clair. Et il lui parut que M. Lecoq posait solidement son départ, comme on dit en termes de métier théâtral. Il devint attentif. Et certes, à supposer que M. Lecoq voulût jouer vis-à-vis de lui une comédie, l'auditoire était surabondamment en garde. Mais cela ne servait à rien avec M. Lecoq qui était, nous allons bien le voir, un tacticien très original et de première force. « As-tu vu l'enseigne ? » demanda-t-il brusquement en prenant place à table. « Au Cocardi. C'est ce qui a déterminé mon choix. Et Jean-Baptiste, je suis Lecoq et je suis Hardy. Déboutonnons-nous. J'ai peut-être besoin de vous, bonhomme, et je paie content. Je suis en fond. La vente a bien marché ici. J'ai livré avant-hier à M. Bancel, le plus fort banquier de Caen, une caisse à secret et à défense nouveau modèle, dont il est amoureux fou. On ne parle que de cela dans la ville. Tous les banquiers de Normandie demanderont des caisses pareilles, et j'aurai un intérêt dans la maison Berthier quand je voudrai. À ma santé. Il but un verre de vin sur sa soupe et poursuivit. Pourquoi? Parce que je suis le Cocardi, entrant partout, jolie tenue, parole élégante, facilité d'élocution, et le reste. Toi, bonhomme, vous êtes la poule, et redingote râpée, bourse plate, timidité du malheur. Il y a donc deux Schwartz à Caen. Je mets toujours le doigt sur la chose du premier coup, vous savez bien. Les Schwartz, c'est comme les Hébreux. Ça se contrepousse dans le monde, mais petitement, oui. Après la carpe, c'est l'Alsacien qui est le plus mou et le plus froid des animaux. Pas de place chez le pâtissier, pas de place chez le commissaire. Alors, voilà mon pauvre bonhomme qui veut partir pour Alençon chercher d'autres Schwartz. C'est bête, et... Ces choses étaient tristes à entendre. Pourtant, puissance de l'appétit, notre jeune ami mangeait assez bien en les écoutant. Manger fait boire. Ce généreux Lecoq lui versait du vin pur. Il est vrai que le vin des auberges de Normandie est illustre. Nulle part ailleurs on n'en peut déguster d'aussi aigre, d'aussi formellement détestable. Mais ceux qui viennent de Guebwiller ne sont pas difficiles, et l'exemplaire sobriété de notre pauvre ami lui faisait une tête plus faible que celle d'une fillette. À mesure que le festin à 4 francs suivait son cours fastueux, J.B. Schwartz sentait naître en lui une chaleur inusitée. Il devenait un mâle parbleu, et se surprenait à envier les hardiesses de M. Lecoq. Dans ce petit monde des employés parisiens, où J.B. Schwartz avait vécu déjà quelques mois, Lecoq n'avait pas la meilleure des réputations. On ne connaissait bien ni ses antécédents ni ses acquaintances. Il courait sur lui des bruits fâcheux et assez graves, mais aucun fait n'était prouvé et l'envie s'attache toujours au vainqueur. Lecoq était un vainqueur. 5 000 francs d'appointements, ses commissions et voitures. Il n'y avait pas en 1825 beaucoup de commis voyageurs arrivés à ce fête des prospérités. J.B. Schwartz le regardait d'en bas, respectueusement. Chaque verre de vin normand ajoutait à la somme de ses admirations. Au dessert, si l'on y mit en balance, d'une part les joies de M. Lecoq, de l'autre les vertus d'Alsace, je ne sais pas si la confiance de J.B. Schwartz eût versé à droite ou à gauche. Il était honnête pourtant, il ne vous eût pas trompé sur une facture faite. Reste à savoir comment on fait la facture. Le fromage était sur la table, ainsi que les coudes de nos deux amis, et ils causaient. « C'est une femme mariée, » disait ce donjon de Lecoq. « Tu comprends, Jean-Baptiste, à nos âges, on n'est pas de bois. » Schwartz fit un signe d'assentiment, le lâche. « Avec les femmes mariées, reprit Lecoq, il ne s'agit pas de plaisanter, il y a le code. »« Alors n'y allez pas, » s'écria Schwartz, sur qui ce mot produisait un effet extraordinaire, nouvelle preuve de son honnêteté alsacienne. Mais Lecoq mit la main sur son cœur et prononça d'un accent dramatique. « J'en tiens, bonhomme, et plutôt mourir que de renoncer au bonheur. D'ailleurs, on a le fil, Jean-Baptiste. » Toutes les précautions sont prises, et j'ai une lettre signée de moi qui voyage en ce moment dans la malle-poste. Elle sera jetée demain matin dans la boîte d'Alençon, à l'adresse du papa brûlé, pour lui réclamer mon jonc à pomme d'argent, qui est là dans le coin, et que je vais oublier en partant. Ah, fit Schwartz, tout ça pour une amourette. Monsieur Lecoq emplit les verres. Il porta le sien à ses lèvres et profita de ce mouvement pour examiner son compagnon à la dérobée. On était à la fin de la troisième bouteille, Schwartz avait dîné copieusement. « Ça ressemble, murmura-t-il, aux histoires qui sont dans les journaux. Comment appelles-tu de cela à la cour d'assises ? Fonder un alibi, je crois. » Monsieur Lecoq éclata de rire. « Bravo, bonhomme, s'écria-t-il, on fera quelque chose de toi. Vous avez trouvé le mot du premier coup, Jean-Baptiste. Et un alibi, c'est précisément cela, parbleu. Je fonde un alibi pour le cas où le mari voudrait me causer des désagréments. » « Tout n'est pas rose dans l'état de séducteur, non. Il y a aussi des coups d'épée, et le mari est un ancien militaire. »« La fille, le café et les liqueurs, chaud !» Tout ceci fut prononcé avec volubilité, parce que M. Lecoq voyait un soupçon naître dans le regard alourdi de son convive. « Ce n'est pas moi qui me mettrai dans les embarras pareils, » pensa tout haut ces derniers. « Jean-Baptiste, » poursuivit M. Lecoq en lui versant une ample rasade d'eau de vie, « votre tour viendra. Vous connaîtrez l'ardeur effrénée des passions. » « Mais je n'ai pas tout dit, et le mari est l'ami intime du commissaire de police. » J.B. Schwartz se recula sur son siège. « Monsieur Lecoq, déclara-t-il résolument, vos affaires ne me regardent pas. »« Si fait, bonhomme, si fait, répliqua le commis-voyageur, il y a un boni... »« Je ne veux pas, commença l'Alsacien. » Le roi dit, « Nous voulons, ma poule. Je te paie 100 francs comptant, sans escompte. Un mot que vous direz ce soir à l'oreille du commissaire de police, tout doucement et sans malice. » Histoire de rire, quoi, et d'obliger papa. Voilà !»